Aujourd'hui, les inventeurs du trio, troisième émission, avec Benjamin Mousset, Arnaud Cuisinier et Éric Échampard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 129e émission du Matin des musiciens du mardi, la dernière de la saison. Aujourd'hui, nous allons refermer une petite série de trois émissions en compagnie du trio du pianiste Benjamin Mousset, un triptyque qui nous a permis de revivre l'histoire du jazz à travers le prisme du trio piano, basse, batterie depuis les années 1940. La semaine dernière, nous nous sommes quittés avec la génération née dans les années 40, celle de Chick Corea, de Keith Jarrett et de Herbie Hancock notamment. Ce matin, nous allons remettre dans leur contexte les derniers avatars de cette épopée en partant de cette même génération, avec cette fois-ci des musiciens européens comme Bobo Stenson ou Joachim Kühn. Nous allons parcourir la fin des années 80, les années 90 et les années 2000 jusqu'en 2012 en cherchant à dégager quelques lignes de force dans les orientations esthétiques multiples qui se sont révélées depuis un quart de siècle. Héritier des innovateurs en matière harmonique, fils spirituel des grands pourvoyeurs d'énergie, inventeurs mélodiques ou subtils initiateurs dans le domaine des mesures impaires, tenant de l'abstraction lyrique ou de la réharmonisation sauvage, adaptateur du répertoire pop ou expérimentateur et bricoleur technologique, amateur de piano préparé, de polyvitesse ou de contrepoint libertaire, ils ont tous leur place dans cette aventure foisonnante où chacun tisse sa toile et invente ses propres solutions sans se sentir obligé d'obéir à une lignée ou rester figé dans une tradition plus ou moins stérile. Et pour ce troisième épisode, évidemment, il a fallu faire des choix drastiques. On espère en tout cas vous donner quelques pistes pour prolonger ensuite le plaisir de l'écoute. Et bien sûr, nous accueillons de nouveau dans ce studio le trio de Benjamin Mousset, avec à la contrebasse Arnaud Cuisinier et à la batterie Éric Échampard. Merci à tous les trois. Bonjour Benjamin Mousset.
Bonjour Arnaud.
Troisième épisode, nous allons donc parcourir un quart de siècle que vous avez vous-même fréquenté. On va vous entendre en trio un peu plus aujourd'hui.
Si je compte mes premières expériences en trio, ça va bientôt faire 20 ans. Alors les musiciens ont changé entre-temps, mais quoique le trio actuel avec Éric et Arnaud, en fait, nous 10 ans... Officiellement 2014, puisque ça fait 10 ans qu'on joue ensemble en trio.
Vous avez d'autres formules, Benjamin, mais quand vous jouez en trio, est-ce que vous reviennent de manière fugace des échos de Bill Evans, de Keith Jarrett? C'est parfois difficile de s'en échapper.
C'est vrai que cette tradition et tout ce passé incroyable, à la fois peut être un poids et peut-être un petit peu angoissant parfois, en se disant « oh là là, mais j'arriverai jamais à faire mieux ou différent ». Et puis après, on arrête de se comparer, on se dit « tiens, mais en même temps, c'est aussi une richesse, une force, puisque c'est source d'inspiration permanente ».
Je vous propose de plonger tout de suite dans le grand bain avec ce thème que vous avez signé, Benjamin. Ça s'appelle précisément « Swimming Pool ».
Thank you.
Au studio 119 de Radio France, le trio de Benjamin Mousset, piano, Arnaud Cuisinier, contrebasse, Eric Echampart, batterie. Merci messieurs, ça s'appelle Swimming Pool. C'est une composition que vous avez signée, Benjamin. Donc dans cette piscine, qu'est-ce qu'on trouve ? On a l'impression que ça s'arrête, ça repart. Oui. Alors, comment ça marche ?
C'est un petit peu inspiré, je ne le cache pas, d'un morceau formidable de Herbie Hancock qu'il avait publié sur le disque Thrust et qui s'appelle Actual Proof et qui est basé sur des rendez-vous. C'est une grille rythmique, on peut dire. On improvise sur une structure et dans laquelle y a des petits passages obligés qui sont temporels, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on doit arriver sur telle ou telle phrase. Je pense que les auditeurs ont reconnu certains endroits et puis on s'arrête tous ensemble. Et c'est extrêmement ludique, à la fois pas facile parce que on ne peut pas s'endormir. Il n'y a aucun moment où on se dit...
Ah oui, il faut être ensemble, il ne faut pas louper le rendez-vous.
Il faut être vigilant en permanence, ouais. Ce qui crée un état un peu d'excitation qui est chouette. Moi, j'aime bien.
Alors aujourd'hui, pour cette troisième émission, Benjamin, on va essayer de faire une sorte de typologie des pianistes depuis un quart de siècle. Évidemment, il y a des héritiers et puis il y a des gens qui vont trouver d'autres choses. Il y a des gens qui vont toujours aller dans l'avant-garde, d'autres qui se sentent mieux dans la nostalgie. C'est le lot de l'être humain. Peut-être qu'on pourrait dégager une première tendance avec ce qu'on pourrait appeler les mélodistes, les harmonistes, les héritiers de Bill Evans et de Keith Jarrett, y compris dans le fonctionnement du trio.
Et je pense en particulier à toute cette école européenne qui est souvent identifié sous le label ECM, créé par Manfred Eicher, qui associe effectivement à la fois une approche du son, qui est souvent très épurée, beaucoup de réverbération, une musique souvent assez calme.
Mais un beau toucher de piano souvent
aussi. Très beau toucher de piano, voilà, et ce côté un peu éthéré, comme ça, les grands espaces du nord, de l'Europe et tout ça. Et c'est sûr que, bon, il y a quelques pianistes qui sont très importants, comme par exemple John Taylor. Un autre pianiste italien, par exemple, qui lui n'a pas enregistré sous ECM, mais qui est pour lui vraiment un héritier de Bill Evans, Enrico Pieranunzi, qui ont développé cette école qui est à la fois lyrique, harmoniste et coloriste, et en même temps, avec des choses un peu plus modernes, des expérimentations, des manières de jongler avec le tempo, avec l'harmonie.
Et puis une grande culture de la musique classique européenne aussi.
Également.
C'est le cas par exemple de Bobo Stenson qui lui est suédois et qui reprend ici une mélodie écrite par le compositeur allemand Hans Eisler sur un texte de Bertolt Brecht que l'on n'entendra pas ici. Ça s'appelle « Der Pflaumenbaum ». Der Pflaumenbaum de Hans Eisler, le trio de Bobo Stenson, piano avec Anders Jørmin, contrebasse et Jan Christensen à la batterie, un trio nordique. C'était en 1999, tout à fait dans la continuité de ce que Keith Jarrett avait pu faire dans ces mêmes contrées d'ailleurs, dès les années 70, absolument, puisque c'est Keith Jarrett qui a popularisé beaucoup le label ECM de Manfred Eicher.
Tout à fait.
On entendait ici une sorte de valse, mais alors sur le plan de la tenue du tempo, il y avait quelque chose d'un peu particulier, d'un peu indécis, presque rubato, comme on dit.
C'est surtout à la fin du thème, on pouvait entendre que tout d'un coup, il laisse flotter le tempo. C'est juste thème qui, lui, est à tempo. Et tout d'un coup, il se retrouve dans ce qu'on appelle un jeu rubato. Dans l'exemple qu'on vient de donner, il est très court. Et ils le font sur une petite partie thématique. Mais c'est vrai que ce rapport au tempo, dans le début des fins des années 70, a commencé à s'ouvrir. Et ça peut même être un mode de jeu pour un morceau entier.
Alors ça vient d'où ? Ça vient de la musique d'Ornette Coleman ? Ça vient de Paul Bley, probablement ?
Peut-être Albert Ayler aussi, cette espèce de flux comme ça, où le rythme, même Coltrane pratiquait ça beaucoup, finalement, dans beaucoup d'introductions. Cette manière, finalement, de chanter et de se retrouver à des points de rendez-vous. Rubato, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tempo non plus, mais pour moi, quand je joue rubato, c'est qu'il y a un tempo, mais qui est mobile.
Mais vous sentez tout de même la barre de mesure ou est-ce que vous essayez de vous en échapper précisément ?
Il n'y a plus vraiment de barre de mesure, on saute de point en point.
Est-ce que vous auriez un petit exemple à nous donner avec votre trio ?
Je vous propose peut-être une composition que j'ai écrite qui s'appelle « Élégie », qui est très simple. On va entendre un thème à la fin, mais avant ce thème-là, on va improviser sur la grille du morceau, qui a, je ne sais plus, une petite dizaine d'accords. Mais voilà, il n'y a pas de tempo fixe. Et c'est finalement les phrases mélodiques que je vais faire qui vont indiquer l'accord suivant. Et on va se suivre. Et chacun des trois membres du trio peut se laisser aller à des petites vagues comme ça entre les différents accords.
Je vous laisse retourner au piano, Benjamin Mousset, avec Arnaud Cuisinier à la contrebasse, Éric Echampart à la batterie. Ça s'appelle Élégie. Élégie, une composition de Benjamin Mousset, ici en trio avec Arnaud Cuisinier, Éric Echampart. Benjamin Mousset, alors cette élégie, là, on est vraiment dans le rubato, dans le calme, dans la méditation. On peut peut-être imaginer des choses avec une énergie un petit peu plus grande qui va nous amener peut-être à une deuxième catégorie de musiciens.
Oui, et on va rebondir d'ailleurs sur le Plammenbaum qu'on écoutait tout à l'heure par le trio de Bobo Svensson, parce que hormis cet aspect rubato et le rapport au tempo qu'il pouvait avoir, on a pu entendre après le thème qu'il faisait une improvisation modale. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de tonique à la basse qui était présente, et là-dessus, un dialogue du piano, de la main gauche, de la main droite, de la batterie, tout ça dans un tempo, parfois un peu flottant. Et alors c'est sûr qu'on l'a déjà vu dans une émission précédente avec Bud Powell, qui était un des premiers initiateurs d'improviser comme ça sur...
Ça, c'était Un Poco Loco.
Un Poco Loco, absolument, qui fait ça dans les années 50, où il a cette idée d'improviser sur une seule note de basse et de développer tout un discours là-dessus. C'est quelque chose qui, depuis, a été extrêmement développé par beaucoup de trios modernes, puisque ça peut faire même référence aux musiques funk, aux musiques rock, à James Brown, aux musiques soul, qui se passent aussi dans un contexte modal. Je voulais donner un petit exemple, peut-être. Souvent, on est dans un contexte modal, comme ça, on improvise, ça monte, ça redescend, on arrive au thème. Mais on peut aussi aller ailleurs. Mmh. Et c'est une technique qui est utilisée par beaucoup de trios, qui va être, par exemple, d'improviser sur une pédale, de faire monter la tension, justement, grâce à ce pôle très fort d'une note à la basse, et finalement, pour ouvrir, tout d'un coup, de déboucher sur une grille d'accords. Donc c'est un petit extrait simplement, c'est la partie improvisée d'un morceau qui s'appelle His Master's Voice, que j'ai écrit, qu'on joue depuis assez longtemps. Et donc on va simplement improviser pendant un petit moment sur cette pédale qui est une pédale de Ré, en citant, et puis on va faire monter un petit peu la tension et tout d'un coup déboucher sur un accord de Mi bémol, il me semble, qui va un petit peu ouvrir tout ça.
On vous écoute tout de suite, Benjamin Mousset, toujours avec Arnaud Cuisinier et Éric Échampard. His Master Voice, un petit extrait, Benjamin Mousset, Arnaud Cuisinier, Éric Échampard. Donc on voit bien ce procédé, on monte lentement sur un accord et puis ensuite on débouche sur quelque chose qui a de nouveau une succession harmonique. Alors ça fait plaisir parce qu'on bouge.
Voilà.
Hein, ça, c'est un effet
ce mouvement harmonique après l'immobilisme. Enfin, bon, c'est toujours une histoire de tension et de détente, évidemment. Tout ça.
Et ça marche toujours. Alors là, on était du côté peut-être de Keith Jarrett encore, mais le côté Jarrett vers la transe.
Oui.
Ça nous rapproche d'une autre catégorie d'héritage ou d'héritier. Hein, c'est ceux qui viennent plus du côté de McCoy Tyner ou de Chick Corea, les énergiques. Ceux qui rentrent dedans, ceux qui font monter la sauce. Alors ils viennent peut-être aussi plus d'Ornette Coleman, plus Dufree.
Voilà, il y a toutes ces influences qui se mélangent et qui, pour moi, se cristallisent, en particulier chez un pianiste qui, moi, m'a fait rêver toute ma jeunesse de pianiste débutant. Quand je commençais le jazz, j'ai eu la chance de l'entendre plusieurs fois en concert avec son trio, qui est pour moi un trio qui a énormément compté dans mes influences et dans mon histoire.
C'est un pianiste allemand. Hein.
Pianiste allemand, Joachim Kühn.
Oui, avec Jean-François Génie-Clark, qui était contrebassiste, qui nous a quittés, que vous avez eu comme professeur.
Que j'ai eu comme professeur au conservatoire.
Et puis Daniel Humer à la batterie. Ils ont formé un trio pendant de nombreuses années, qui était un trio à la fois très libre et en même temps avec un répertoire, avec des consignes très précises.
Chez Joachim Kühn, il y a à la fois la liberté absolue, qu'il a d'ailleurs exploré un peu plus tard dans sa carrière en rencontrant Ornette Coleman. C'est ses grands rêves de pouvoir jouer avec Ornette. Mais chez lui, il y a aussi à la fois tout le romantisme allemand, quelque chose de très tellurique comme ça quand il joue. On le voit d'ailleurs, il gesticule, il bouge, il a ses cheveux qui sautent dans tous les sens. C'est tout un personnage quand même, Kim Kuhn. Et ce grand raffinement qui vient peut-être de la musique classique, de la musique romantique, de grande virtuosité. On retrouve quelque chose qu'on a pu entendre dans l'émission précédente quand on parlait de Martial Solal, ces grands unissons d'orchestre.
Alors ce sont souvent des interprétations assez longues,
oui,
où il se passe beaucoup de choses successivement.
Voilà.
Peut-être qu'on va laisser les micros ouverts pour commenter ce qui se passe sur ce thème qui s'appelle Guylaine, qui est co-signé Daniel Humer et Joachim Kühn. Un enregistrement qui date de 1985, on va dire ce qui se passe dès le début.
Le thème proprement dit.
Qui est joué à l'unisson, à la main droite, ouais, du piano et la contrebasse.
Voilà la contrebasse qui répond sur la main gauche du piano. N'arrête pas de se promener.
Et d'autres phrases sont accompagnées par les cymbales.
Voilà. La signature de Daniel Humer d'ailleurs. Et la phrase d'introduction qui revient. Deuxième partie du morceau, la transe. Et l'entrée de JF. Et là, Joachim Kühn fait tourner cette transe avec sa main gauche et va jouer un thème à la main droite. Improvisation collective sur la transe. Le thème qui revient. Caractéristiques de Joachim Kühn. Et là, il déstructure, tout en restant dans la rythmique de 12 temps dans laquelle se passe ce morceau. La phrase d'introduction à nouveau. Et là, alors ça c'est typique du trio du Joachim Kühn avec Daniel Jief, ils partent dans un swing rapide, complètement improvisé. Et là on écoute le phrasé du Joachim Kühn et l'interaction. Si on écoute la main gauche, on voit qu'il y a comme des centres tonaux, des accords de main gauche, qui sont improvisés. Comme s'il venait de changer d'accord, mais c'est pas prévu.
Là, c'est très proche de Michael Tyner.
Absolument. La main gauche, hein. Oui, avec ses quintes dans les graves et puis les accords dans le milieu du piano. Encore un changement d'harmonie. Et là, ils se suivent à trois. Comme ça, cette manière de faire monter par cran, on n'arrête pas, on a l'impression qu'il n'y a aucune limite. Mais on se demande, comment vont-ils s'en sortir? Et c'est là... Encore un palier. L'énergie redescend, et que se passe-t-il? Joachim Kühn qui joue de manière arythmique. Et voilà, ils ont changé de tempo. Voilà, et le morceau va se prolonger encore pendant quelques minutes comme ça, avec des changements de tempi, le thème va revenir à la fin. Ce qui est extraordinaire dans ce Guylaine, c'est que justement, on a presque une espèce de condensé des grandes techniques, des grandes marques de fabrique de ce trio.
De ce trio et d'autres trios oui. Contemporains dans les années 70-80 qui effectivement bénéficient de tous les acquis antérieurs qu'on a développés depuis deux émissions. On aurait pu citer aussi quelqu'un comme Richard Berak qui avec David Lillman, alors là ça sort du trio, a beaucoup développé ce type d'interaction.
Oui, il y a un disque formidable de Berak en trio qui s'appelle ELM, où il développe aussi des choses comme ça d'improvisation modale, des textures harmoniques, enfin il y a plein de choses chez ce pianiste formidable.
Et dans un rapport peut-être un petit peu plus proche à l'héritage du bebop, des musiciens comme Kenny Kirtland ou Mulgrew Miller ou Jerry Allen, qui est un petit peu plus proche d'Ornette Coleman. Évidemment, il y a toutes les composantes possibles dans cette histoire du
Marlene
trio.
Crispell aussi, par exemple, qui, elle, va illustrer l'aspect un peu plus free, etc., dans les trios formidables, Gary Peacock et Paul Motion, par exemple.
Alors dans la composante Free de Joachim Kühn, il y a aussi une composante romantique, oui, héritière de l'Europe. C'est sans doute ce qui caractérise aussi beaucoup un jeune pianiste qui est apparu dans les années 90, qui s'appelle Brad Mehldau, et qui lui a suscité presque une école, on peut dire. C'est quelqu'un, oui, qui a énormément été écouté. Hein.
Il a apporté tellement de choses originales, et une manière de faire, et puis un son, et une manière d'envisager le trio, que depuis, le paysage du trio n'est plus pareil.
Alors, il a quelques procédés extrêmement particuliers et très personnels, très singuliers, aussi bien sur le plan mélodique que sur le plan rythmique. On va peut-être l'écouter sous ces deux aspects. D'abord, oui, sur le plan mélodique, sa façon de travailler sur le répertoire.
Oui, et sur un répertoire qui, à la fois, comprend beaucoup de standards, mais aussi, il a repris, et en particulier, les compositions d'un groupe anglais qui s'appelle Radiohead.
Alors, précisément, est-ce qu'il en fait un standard, au sens où Miles Davis pouvait reprendre un thème de Broadway ?
J'ai entendu dire qu'il était gaucher, et c'est vrai qu'une de ses grandes forces, c'est sa main gauche, et en particulier sa manière de lui faire développer un jeu en arpège. Voilà une de ses grandes caractéristiques. On va l'entendre dans cette manière de s'approprier ce thème de Radiohead qui s'appelle Exit Music for a Film. Bon, ça commence un petit peu comme chez Radiohead, et puis après, ça devient vraiment du Brad Mehldau.
Avec un jeu extrêmement proche de lui, du batteur Jorge Rossi, et une grande fluidité dans le jeu de contrebasse de Larry Grenadier, parce que bien sûr, c'est toujours un trio piano,
c'est un trio, batterie. Absolument. Thank you.
Exit Music for a Film, la chanson de Radiohead reprise par le trio du pianiste Brad Mehldau avec Larry Grenadier à la contrebasse et George Rossi à la batterie. C'était en 1998. Il est né en 1970. Alors il a ce côté très mélodique, très proche du répertoire de la pop musique. Et puis il y a quelque chose de très intéressant aussi chez Brad Mehldau, c'est sa manière d'utiliser les rythmiques. Et les rythmiques, particulièrement les rythmiques impaires,
oui.
Benjamin.
Rythmique impair en 5 temps et en 7 temps. Évidemment, il n'invente rien puisque, par exemple, le 5 temps a été popularisé dans le jazz par Dave Brubeck. Oui. Chez lui, je pense que voilà, il voulait se créer peut-être un petit défi. Le rebond qu'il trouvait dans ses rythmiques, ça lui permettait de trouver de nouveaux phrasés. Et ça permettait aussi au trio peut-être de chercher une interaction puisqu'il existe plein de manières d'aborder le travail sur les mesures impaires.
Alors, si on parle de la mesure à 7 temps... C'est 4 plus 3, comment ça marche?
Très souvent 4 plus 3. Le mieux, ce serait peut-être de donner un exemple. Je vous propose d'utiliser le standard qu'on a utilisé pendant toutes nos émissions sur le trio qui est All the Things You Are. On va le jouer d'abord tout simplement en 4 temps rapides tel qu'il est joué normalement. Voilà, là, donc c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Là, tout va bien, c'est
voilà,
normal.
Tout va bien. Et bien, si on va dans du 7 temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Il y a un temps de moins ou 3 temps de plus?
Là, en l'occurrence, finalement, on va presque penser par rapport aux mesures de 4 temps. En fait, c'est qu'on va raccourcir chaque fois la deuxième mesure. C'est-à-dire, c'est comme si on jouait en une mesure de 4
D'accord.
et une mesure de 3.
Donc, c'est sur deux mesures que vous faites les 7 temps.
Voilà, d'une certaine manière.
Alors, est-ce qu'on peut faire ça sur tous les thèmes?
Il faut, comme on l'a vu là avec All the Things You Are, adapter la mélodie. Et certaines mélodies vont s'adapter très facilement et d'autres moins facilement. Mais on peut le faire sur quasiment tous les thèmes. Oui, ça peut être assez.
Alors, Mehldau, lui, il le fait sur Get Happy, par exemple. Là, c'est un thème de Roald Dahlen.
Voilà, un vieux standard des années 30. Ouais. Get Happy, qu'a joué Bud Powell aussi. C'est peut-être un hommage caché, d'ailleurs, à Bud Powell, j'ai l'impression, cette version. Écoutons simplement comment il joue le thème. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans les détails.
Le début de l'interprétation de Get Happy de Harold Arlen par le trio de Brad Mehldau avec Larry Grenadier à la basse et George Rossi à la batterie, c'était en 2002. Qu'est-ce qui se passe? On entendait une sorte d'ostinato de main gauche ici avec la contrebasse.
Puisqu'on parlait des mesures impaires, pour rentrer un petit peu dans les détails de ce fameux 7 temps, très souvent la mesure à 7 temps est basée sur ce qu'on appelle une clave, la clé rythmique. Une des claves les plus employées en 7 temps, c'est 4 coups qui découpent la mesure en 7 temps et qui permettent ensuite de s'appuyer dessus pour improviser, pour jouer. Si je vous tape une clave basique en 7 temps, ça va être par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Voilà. Souvent, quand on va jouer en 7 temps, on peut utiliser ça pour une ligne de basse. Si j'utilise les 4 coups que je viens de taper à la basse, ça ferait par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on voit que Brad Mehldau non seulement se sert de cette ligne de basse pour interpréter le thème dessus, ce qui colore le thème d'une manière particulière, puisqu'on n'a pas la grille, mais on a une espèce de pédale de basse. Mais en plus, il va plus loin, puisqu'il brouille les pistes en changeant le rythme de cette basse.
Ouais.
Il nous fait penser à la clave, mais ce n'est pas vraiment la clave, c'est-à-dire qu'il raccourcit, il fait un truc comme ça. Voilà. Au début, quand on écoute le morceau, on ne sait même pas si c'est en 7 temps. Et là, ils sont très forts.
Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Il va y avoir un solo de batterie sur la forme, ce qui est assez rare en trio, en tout cas avec accompagné
par le
piano.
On ne va pas l'écouter parce que le morceau est très long.
Après, il va y avoir une cadence de piano.
Qu'est-ce que c'est une cadence de piano ? C'est comme dans un concerto classique.
Comme dans un concerto classique, voilà, où l'orchestre, en l'occurrence la basse et la batterie, s'arrêtent et le pianiste se retrouve tout seul pendant 2-3 minutes à exploiter le matériel. On va voir qu'il joue sur la structure du thème, il exploite des thématiques. Et c'est intéressant de l'écouter puisque là, il y a vraiment un peu toutes les caractéristiques de Brandeldo avec sa main gauche et tout ça.
Et le trio va revenir.
Le trio va revenir à la fin de la cadence de piano.
Get Happy, le trio de Brandeldo avec Larry Connaudier et Jorge Rossi en 2002. Là, on est reparti dans un fonctionnement de trio traditionnel, j'allais dire.
Presque Benjamin. Traditionnel, ouais. Parce qu'on se croirait dans un trio de bebop, comme ça, ouais. À l'air de rien. Mais si on se met à compter, on s'aperçoit qu'ils sont en 7 temps.
Toujours.
Et ils réalisent l'exercice très difficile de jouer la walking bass en 7 temps. Autant quand on est sur une clave, comme je montrais tout à l'heure, il nous reste un repère quand même, ce boom, tchac, boom, boom, boom. On sait où est le premier temps, mais alors... Quand la basse se met à jouer la walking bass, là, ça devient très difficile parce que...
De savoir où est le premier temps.
Ah voilà, si on le perd, on ne sait plus où il est.
Alors si on va encore un petit peu plus loin dans ce registre des mesures bizarres, il y a un autre pianiste important dans cette génération, c'est Jean-Michel Pilque, qui est un pianiste français qui s'est installé aux États-Unis depuis une vingtaine d'années et qui a eu un petit peu le même type d'évolution. Lui, il vient plutôt de l'école Chick Corea, pour aller vite.
Oui, Chick Corea, McCoy, voilà, un jazz un peu... moins orienté sur la mélodie, mais plus sur un travail harmonique un peu complexe. Et puis,
peut-être un peu plus abstrait que Brandeldo, c'était une autre école. Hein.
Voilà, c'est une autre école, oui. C'est moins dans le lyrisme et dans cette poésie immédiate qu'on a chez Meldo, mais plus dans une abstraction, une recherche de ce qui grince un petit peu, ce qui...
Et puis un joueur, vraiment quelqu'un qui aime jouer, qui aime provoquer ses partenaires de trio.
Oui, et qui travaille, moi ce que j'aime beaucoup chez Jean-Michel Pilque, c'est cette manière d'être un vrai improvisateur, c'est-à-dire de temps réel.
Alors, par exemple, pour une composition célèbre de John Coltrane, Giant Steps, qui était déjà une forme d'exercice de style à l'époque, lui, il en fait un autre exercice en la jouant à 5 temps.
Il la joue à 5 temps, pour ça, Avec Brandeldo, tout à l'heure, on parlait du 7 temps. La deuxième rythmique impaire très populaire dans le jazz, c'est le 5 temps. On va vous donner un petit exemple avec le trio, simplement toujours sur All the Things You Are, qu'on va jouer d'abord en 4 temps. Là, on était donc en 4 temps. Et puis, si on le rejoue maintenant en 5 temps, on va entendre le petit balancement particulier.
Alors, Alors, si on applique ce procédé à Giant Steps, ce qui est amusant, c'est que les musiciens du trio de Jean-Michel Pilk, le bassiste François Moutin et le batteur Harry Hoenig, ils vont jouer à se retrouver toujours sur les deux dernières notes du thème.
Oui, hein. Comme un petit point de rendez-vous à la fin du thème. Donc, dans la dernière mesure, on va entendre, ils font chaque fois do dièse, fa dièse. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a un point de repère, parce que le morceau va devenir tellement abstrait au bout d'un moment. Mais malgré l'abstraction apparente, quand on écoute, où on se dit, mais ils font n'importe quoi parfois, ils ne sont jamais perdus, puisqu'on peut compter le morceau, il ne manque jamais un temps, et ils suivent toujours la forme du morceau.
Et comme Jean-Michel Pilk aime bien jouer aussi avec la mémoire de ses auditeurs, il glisse quelques musiques de films ou quelques musiques de séries que vous allez reconnaître au début de Giant Steps. Giant Steps de John Coltrane par le trio du pianiste Jean-Michel Pilk avec François Moutin à la contrebasse et Harry Hoenig. Évidemment, ici, ce qui retenait l'attention, c'était la manière d'adapter ce thème de Coltrane à une mesure à 5 temps. Ce que Jean-Michel Pilk aime beaucoup faire aussi, c'est réharmoniser ses thèmes, ses standards ou travailler sur ses propres compositions avec des harmonisations extrêmement sophistiquées. On peut bien sûr harmoniser de multiples manières. Benjamin, vous êtes au piano.
On l'entendait déjà là dans Giant Steps parce qu'il ne joue pas toujours les accords d'origine.
Oui. Alors si on reprend notre thème All the Things You Are, qu'est-ce
oui.
qu'on peut...
Oui, alors je vais déjà jouer le thème All the Things You Are tel qu'il est écrit dans sa version d'origine. Réharmoniser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire garder la mélodie et puis mettre d'autres accords. Une des techniques de base, par exemple, consisterait à garder les grands points d'arrivée, par exemple les toniques principales, les fins de phrase, les débuts de phrase, mais de modifier des petits accords intermédiaires. Et par exemple, pour faire référence au Giant Steps qu'on vient d'utiliser, Giant Steps utilise une progression tout à fait particulière que Coltrane avait un petit peu découverte, ou en tout cas mise en lumière quand il a écrit ce morceau. C'est ce qu'on appelle les Coltrane Changes, les accords de Coltrane. Il ne les a pas inventés lui-même. Mais je peux vous donner un exemple sur All the Things You Are, d'utiliser ces progressions d'accords de
Alors
manière
là,
interne.
On est obligé un petit peu de changer la mélodie quand même.
Hein. On doit changer un petit peu la mélodie, oui, pour qu'elle s'adapte à ces nouveaux accords. Ça donnerait, par exemple, quelque chose comme ça. On pourrait pourrait par exemple l'harmoniser d'une manière un peu plus moderne à la Bill Carothers ou voilà, à la Paul Bley ou je ne sais quoi. Je vais carrément faire une version où en fait je mets simplement d'autres accords à la place des accords originaux en inventant moi-même mes trajectoires. Ça donnerait par exemple quelque chose comme ça. Pour peut-être citer une dernière technique d'harmonisation qu'on peut utiliser, et que d'ailleurs Jean-Michel Pilk utilise beaucoup, on l'a entendu dans Giant Steps, il l'utilisait, c'est l'idée de prendre par exemple une structure, un accord, je ne sais pas par exemple un accord un peu bizarre comme celui-là, et là, indépendamment de tout cheminement harmonique, je vais simplement prendre les notes de la mélodie, et puis déplacer cet accord de manière parallèle, ça donne quelque chose comme ça. Là, on est dans l'abstraction. Mais on va voir que Jean-Michel Pilk aime beaucoup jouer à ça. Et je vous propose, par exemple, d'écouter simplement le thème pour voir comment il réarrange un standard en temps réel. Il s'agit, bien sûr, de T42.
Un extrait de T42 par le trio de Jean-Michel Pilk avec François Moutin et Harry Hunig. C'était en l'an 2000, à peu près à cette époque, en l'an 2000 exactement, beaucoup de trios sont apparus sur la scène du jazz en France, aux États-Unis, un petit peu partout en Europe. On se souvient par exemple du trio de Pierre de Bettman avec Christophe Willem et Benjamin Enoch qui jouaient sur beaucoup de ces procédés, notamment sur le plan rythmique.
Oui,
ça s'appelait Prisme.
Prisme, absolument. Un trio qui a influencé beaucoup de monde, et je pense pas que des Français, même des Américains. Ils ont proposé un son de fin des années 90 qui était vraiment un son à eux.
Avec la main gauche du piano, très accentuée.
Oui, là on va écouter par exemple un petit exemple où le thème est joué à la main gauche. C'est vrai qu'on a eu peu d'exemples jusqu'ici dans les trios, même si c'est pas Prisme qui ont inventé ça, mais le thème est joué à la main gauche, à l'unisson avec la contrebasse, et avec des accords en mesure impaire décalés à la main droite. C'est une musique assez complexe, abstraite, mais très intéressante. Thank you.
Le trio Prisme avec Pierre de Bettmann, Christophe Wallem et Benjamin Enoch dans une composition de Pierre de Bettmann, Tendance, c'était en l'an 2000. On a vu un certain nombre de trios, particulièrement, je me souviens, en France, le trio Machado dès les années 80, ou le trio de Franck Avitabile, celui de Manuel Rochman, un peu plus près de nous, ceux de Laurent Deville, de Baptiste Trottignon, ou encore de Boyan Z, qui joue beaucoup sur des plans rythmiques.
Hein. Le rythme. C'est vrai que c'est la grande tendance quand même des années 90. Peut-être 90 et 2000, Steve Coleman, sûrement le saxophoniste, n'y était pas étranger, puisqu'il a quand même fait une petite révolution rythmique à sa manière aussi sur les mesures impaires. Mais on a aussi une autre tendance qui apparaît. Brad Mehldau le préfigurait en réinterprétant Radiohead. La pop musique, le rock, et ce qu'on appelle maintenant les musiques actuelles, mais alors il y a le hip-hop, il y a tous ces rythmes de batterie modernes, la techno, les musiques électroniques. Et évidemment, le trio de piano jazz est influencé par ça.
Parfois, plutôt à l'orgue qu'au piano, comme je pense à Medeski Martin & Wood, oui. Ou à Eric Lenini, qui peut jouer aussi des instruments électriques.
Absolument, le Fender Rhodes.
Ou Jackie Terrasson. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Bad Plus.
Le pianiste Ethan Iverson.
Au piano. Voilà, il reprend des thèmes de Nirvana, par exemple.
Voilà.
Ou de Deep Purple.
Aphex Twin, ouais. Aussi, le compositeur techno.
Peut-être le trio qui a le plus marché dans cette veine. Malheureusement, il n'existe plus, puisque le pianiste a eu un accident de plongée il y a quelques années, en 2008. C'était Esbjörn Svensson, et le trio s'appelait tout simplement EST, ou Est, comme vous voudrez, ça voulait dire Esbjörn Svensson Trio, avec Dan Berglund à la contrebasse et Magnus Ström à la batterie. Alors eux, ils reprennent des standards de la pop, ou plutôt ils en inventent ?
C'est plutôt qu'ils en inventent. Ils font quelques reprises, mais finalement leur répertoire est essentiellement basé sur leur propre composition. Mais c'est vrai qu'on ne sait plus si on est dans un groupe de jazz ou un groupe de pop sans chanteur, finalement. C'est basé beaucoup sur des morceaux organisés comme des chansons, avec des structures comme ça. On sent très bien les enchaînements entre les différentes parties, sur l'orchestration, l'utilisation parfois de la distorsion, de l'archet, de la contrebasse, comme on va l'entendre maintenant. Voilà, une musique de couleur, une musique qui a eu un succès fou, en particulier...
Assez accessible.
Très accessible, et en particulier auprès d'un public très je
s'appelle Dodge de Dodo, c'est le trio EST, Esbjörn Svensson au piano, Dan Berglund à la contrebasse et Magnus Ström à la batterie. C'était en 1998. Finalement, c'est une musique qui pourrait être jouée par un groupe pop avec une guitare.
Oui. On a même ça à la main gauche du piano, on a ce qu'on appelle les power chords, des accords puissants, qui sont simplement une quinte.
C'est des accords de guitare.
Qu'on joue avec les deux cordes, la guitare, les deux cordes graves. Puis cette rythmique de la batterie qui finalement on n'est plus du tout
binaire.
Dans une batterie de jazz binaire et même on sent
tout
qu'elle est compressée,
tout
à la croche, de traiter de manière sonore, etc. La pop musique et tout ça, ça m'a intéressé à un moment donné parce que j'avais écrit un petit morceau qui était presque une forme d'exercice pour moi où je m'étais
dit... accords de trois sons.
Voilà, moi qui suis un jazzman, qui
ai
toujours des accords à 12 sons, si j'écrivais un morceau avec des accords à 3 sons. Et du coup j'ai écrit un morceau qui finalement à la fin me plaisait bien, avec des mélodies en notes longues. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire jouer cette mélodie à la contrebasse, à l'archet. Et bon, comme on est quand même des jazzman et qu'on peut pas être trop simple parce qu'on n'y arrive pas et qu'on est dans cette culture du rythme, je me suis dit, bon, et si au lieu de faire une mesure à 3 temps, je faisais une mesure en 13 temps, c'est-à-dire 6 plus 7.
Ah oui, voilà, bah vous compliquez.
Voilà, mais bon, mais tout ça donne finalement une chanson, enfin moi je l'appelle une chanson, même s'il n'y a pas de parole.
Si vous pouvez la chanter, si vous voulez bien nous la jouer.
Un petit peu pop, ça s'appelle Mood.
Benjamin Mousset avec Arnaud Cuisinier et Eric Estampard, toujours ici au studio 119 pour le Matin des Musiciens sur France Musique. Thank you. Ça s'appelle Mood, c'est une de vos compositions, Benjamin Mousset. Vous étiez avec Arnaud Cuisinier et Éric Echampa. Oui, c'est assez proche de la chanson, mais on n'est pas du tout dans le même type de rythmique que Estelle. Hein.
Non. Et on est même plus dans une forme de romantisme qui m'est chère, hein, je l'avoue, je suis romantique.
Mais... Alors, si on parle du trio, évidemment, le rôle de la contrebasse ici est différent,
oui, parce
qu'il est joué à l'archet.
Oui, parce qu'il y a une recherche de timbre. Voilà. Ouais. Le morceau Mood, pour moi, est un exemple important parce qu'il y a une recherche de timbre qui est différente. Le piano fait des arpèges. Le thème est joué en unisson contrebasse, piano et à l'archet. Et l'archet, c'est vrai qu'on l'a entendu chez Duke Ellington déjà il y a très longtemps, mais ensuite, il est plutôt absent quand même c'est de vrai. L'histoire du trio ouais. Et il revient en force dans les années 90-2000.
Parfois, quand ce sont des contrebassistes qui sont leaders du trio, même avec piano et batterie, comme ouais. Jean-Philippe Viret, par exemple.
Jean-Philippe Viret, oui, absolument, qui a un trio formidable depuis ouais. des années, qui utilise énormément l'archet de plein de manières très,
ou
très belles.
Ou quand on trouve un virtuose de l'archet comme Claude Chamichian, ou bien à côté d'Andy Emler, ou bien aux côtés de Stéphane Villa, par exemple.
Oui, hein. Des trios qu'on peut citer aussi, qui sont super.
Alors, on a exploré un certain nombre de pistes dans cette typologie des trios piano, basse, batterie contemporains. On pourrait en ouvrir une autre. Ce seraient les expérimentaux, les bidouilleurs, avec la technologie, avec le bricolage technologique presque. Quelqu'un comme Jason Moran, par exemple, il aime bien faire des boucles, il aime bien se servir des petits appareils.
Oui, on revient à quelque chose peut-être de moins mélodique et de moins sensuel ou facile à écouter, mais quelque chose d'un peu plus obscur qui nous vient d'Andrew Hill, qui nous vient de la musique free, qui nous vient d'Ornette Coleman aussi.
Oui, Jason Moran est né en 1975 et il a été l'élève d'Andrew Hill précisément.
Oui, absolument. Ouais. Alors, il a un groupe formidable qui s'appelle le Bandwagon avec Tarus Martin qui ne joue pas de la contrebasse mais d'une basse acoustique, un petit peu comme celle que joue Paul McCartney dans les Beatles. Et Nashid Waits, un batteur formidable. Et alors, ils ont fait tout un tas d'explorations en trio, mais il y a un morceau assez caractéristique qu'on va écouter maintenant, un extrait en tout cas, qui est Ringing My Phone, où il s'amuse au jeu très amusant de prendre un message téléphonique qu'il avait sur son répondeur, qu'il a mis en musique pour le trio. Ce qui fait un truc formidable, parce qu'à la fois, il joue l'unisson du message, il joue entre les phrases du message, et à la fin, ils prennent même un petit bout qu'ils jouent en boucle.
Alors, gardez votre portable allumé pour une fois.
Işıklar harika. Türkiye valla baya karşı. İstanbul'daki insanlar garipler ya. Çocuklarımı sormaya çalışıyorlar. Telefonum çalıyor. Ringing my phone. Şu an gezinle birlikte otelin odasındayız. Işıklar harika. Türkiye valla baya karşı. İstanbul'daki insanlar garipler ya.
Façon de traiter ce message téléphonique et de le vocaliser, d'en faire une mélodie. On a déjà entendu ça dans l'histoire du jazz avec des musiciens comme Hermeto Pascoal,
oui,
le musicien brésilien, qui lui partait d'un enregistrement de discours d'hommes politiques.
Oui, oui.
Mais là, c'est vraiment avec le téléphone.
Et surtout en trio. Je pense que c'est la première fois moi, que j'entendais un trio de piano jazz jouer ça. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est cette manière des fois de jouer des bouts de mélodie à l'unisson et de voir comment la basse et la batterie vont se placer là-dessus. Je peux vous proposer un petit exemple autour d'une composition que j'ai écrite qui s'appelle Hiding. La composition, elle est composée d'une ligne de piano. Je vous joue un petit bout de la ligne. Alors là, il n'y a pas d'harmonie, mais comment orchestrer ça pour un trio? Je me suis dit, tiens, si la basse et la batterie jouaient sous forme de cloche, les notes les plus graves de cette ligne, ça donnerait quelque chose comme ça. L'orchestration complète donne ceci.
s'appelle Hiding. C'est donc une manière d'orchestrer une mélodie bizarre.
Une recherche de timbre. Voilà. De penser le trio non plus comme un générateur de mélodie ou d'harmonie, mais de timbre.
Alors on peut peut-être aller encore un petit peu plus loin dans le principe d'orchestration en préparant le piano. Et il y a un pianiste français qui fait ça très souvent, c'est Benoît Delbecq.
Tout à fait.
Qui fait ça aussi en trio.
Et qui jusqu'ici a travaillé là-dessus en solo, jusqu'à 2008, où il a sorti son premier disque en trio, piano, contrebasse, batterie, avec Jean-Jacques Avenel et Émile Bienda. Et là, c'est magnifique parce qu'il utilise voilà, une partie du piano qui est préparée. Là, on plonge dans l'Afrique, dans des timbres, dans des espèces de percussions.
Oui, parce que Jean-Jacques Avenel, il joue de la contrebasse, mais on sait que c'est un grand amateur
de cora.
Il joue aussi la cora.
Absolument. Et en même temps, il garde une partie du piano non préparée qui lui permet là-dessus d'improviser une espèce de ligne comme un oiseau. Ou, voilà. C'est très, très beau.
Ça s'appelle Ando, le trio de Benoît Delbecq, piano préparé ici, avec Jean-Jacques Avenel à la contrebasse et Émile Bienda à la batterie. On entend bien sûr toute la richesse de ces timbres, l'amour de Benoît Delbecq pour la musique de Ligeti, qui lui-même aimait la musique des Pygmées Aka de Centrafrique. On entend toute cette histoire et pas seulement l'histoire du jazz ici.
Ah, c'est sûr. Et puis ce travail de timbre et un travail de rythme, puisque apparaissent des polyrythmies. C'est très très beau cette musique.
On a parlé polyrythmie, on n'a pas encore parlé de polyvitesse. Ou d'accélérando, façon de jouer avec la vitesse que finalement on entend parfois dans la musique symphonique ou dans la musique classique,
absolument.
Mais dans le jazz on varie très peu la vitesse.
Ça se fait assez peu, on fait effectivement des polyrythmies, on change de tempo, mais où on joue au bateau, comme on l'a vu en début d'émission. J'ai trouvé un petit exemple d'un pianiste qui est très très intéressant, qui s'appelle Vijay Iyer, qui a beaucoup travaillé sur le rythme, il y a une dizaine d'années, dans des trios plutôt avec batterie et saxophone. Mais il a fait en 2011 un disque en trio, qui s'appelle Accelerando. Et dans le morceau éponyme, justement, il explore cette notion de pulsation variable. C'est-à-dire que là...
À trois. Ensemble.
Voilà, ça résonne un petit peu, on a eu le piano préparé à l'instant, là on va entendre une espèce de batterie électronique.
Ouais.
Alors, qui est un peu à l'opposé, mais qui a un timbre qui, finalement, n'est pas si éloigné.
C'est Marcus Gilmour à la batterie, avec Stephen Crump à la contrebasse, et Vijay Iyer au piano.
Et on va entendre le thème, ce thème qui accélère et qui ralentit.
We'll be right back. Accelerando, le trio de Vijay Iyer avec Stephen Cramp à la contrebasse et Marcus Gilmore à la batterie. Alors pour refermer cette petite typologie des trios piano, basse, batterie contemporains, on pourrait peut-être dégager une dernière tendance, celle oui. des libertaires, mais qui jouent non pas des harmonies, mais qui jouent en contrepoint.
Oui, peut-être enfin s'affranchir du piano, cet instrument à faire des accords, pour ne faire plus que des mélodies.
Donc des héritiers du free, mais très mélodistes.
Oui, et puis de penser finalement le trio non plus comme voilà, un piano, une base harmonique et puis de l'improvisation autour de ça, mais de penser finalement une écriture même pour piano qui serait simplement duophonique, quoi, une main gauche qui joue de la mélodie, une main droite qui joue de la mélodie, la contrebasse qui va souvent doubler la main gauche, et une batterie qui elle-même serait mélodique au milieu. Voilà.
Vous avez un petit exemple dans votre répertoire, Benjamin ?
Oui, tout à fait. C'est une balade que j'ai écrite qui s'appelle Non, ce qui signifie le néant, ouais. qui est basée là-dessus. Alors, c'est basé à la fois sur un petit cycle en 15 temps, rythmique, comme ça, sur lequel on va improviser, et sur des passages comme ça où on est dans du contrepoint.
On vous retrouve avec Arnaud Cuisinier et Éric Échampard. Ça s'appelle Non, c'est une composition de Benjamin Mousset ici avec Arnaud Cuisinier à la contrebasse et Éric Échampard à la batterie. Benjamin, est-ce que c'est complètement écrit ce qu'on vient d'entendre ou il y a des passages improvisés ?
Non, il y a tout un petit passage central improvisé sur cette espèce de ligne de basse répétitive, comme ça, comme des petites cloches, sur lesquelles moi je suis libre d'improviser. Mais évidemment, ce contrepoint mélodique, on pourrait pousser ça un petit peu plus loin et puis s'en servir, bon, comme là on a pu l'entendre dans l'écriture, mais aussi dans l'improvisation, c'est-à-dire avoir un thème qui serait contrapunctique, orchestré pour le piano, la basse, la batterie, et qui à un moment donné laisserait place à une improvisation du même ordre.
C'est sans doute ce que cherche aussi un pianiste comme Craig Taborn, qui va vers ça avec trois voix, vraiment un trio équilatéral, là pour le coup, avec oui. Thomas Morgan à la contrebasse et Gerald Cleaver à la batterie, avec beaucoup d'improvisation probablement, quelque chose de très contrapuntique.
Un thème très contrapuntique et diatonique, comme on va l'entendre, assez virtuose, puisqu'en plus ça va vite, et pour la contrebasse en particulier, c'est vraiment pas facile à jouer, et qui ouvre sur une improvisation. On sent qu'il y a des points de rendez-vous, puisqu'il y a une petite gamme descendante qu'on va entendre, qui revient plusieurs fois dans l'improvisation.
Qui jalonne,
mais est-ce qu'elle est donnée au signe? Est-ce que c'est une grille, mais qui est devenue tellement abstraite qu'on n'arrive pas à la détecter en tant qu'auditeur? On ne sait pas.
Et le mystère fait partie du plaisir.
Oui, c'est très poétique.
Ça s'appelle Saints, une composition du pianiste Craig Taborn avec Thomas Morgan à la contrebasse et Gerald Cleaver à la batterie. C'est un enregistrement tout à fait récent, réalisé en 2012 pour le label ECM, qui produit finalement des choses extrêmement différentes entre le Bobo Stenson que nous écoutions au début de cette émission et Craig Taborn. Ce sont deux pianistes radicalement différents dans leur démarche, dans leur sonorité, dans leur rapport à l'histoire du jazz aussi.
Tout à fait, oui, puisqu'on est dans quelque chose de très abstrait, comme on a pu l'entendre chez Craig Taborn, avec un rapport au tempo. C'est intéressant parce qu'il traverse un peu tout ce dont on a parlé sur le plan du rythme dans cette émission, au sens où on entend des rythme impair dans l'écriture du thème, en même temps parfois dans l'improvisation ils sont rubato puisqu'on a l'impression qu'ils quittent le tempo, ils le retrouvent, et des fois j'avais presque l'impression que c'est de la musique à un temps. On n'est même plus dans les mesures impaires à 7 ou à 8 ou à 9, ou je sais pas. On devient à un temps, au sens où finalement il y a une pulsation qui guide les trois musiciens.
Ici on avait donc ces trois voix qui se suivaient en contrepoint. C'est une manière de procéder. On pourrait imaginer de jouer sur les oppositions des instruments qui vont après se rejoindre.
Cette notion de contrepoint, peut-être de l'étendre, plus simplement avoir des lignes mélodiques qui jouent au chat et à la souris, mais peut-être simplement avoir un trio qui serait comme trois voix. Et chaque voix raconte son histoire pour peut-être se rejoindre à un point donné. Et je me suis amusé à travailler sur cette forme dans une composition qui s'appelle Battlefield Memories.
Alors c'est vraiment un champ de bataille alors.
Oui, là on est dans
un champ
de bataille.
Chacun défend son compte à soi.
Et si vous voulez, le piano a, dans la première partie de la composition, un rôle très précis qui est de jouer deux notes en rythme avec une trajectoire. Les deux notes vont s'écarter de plus en plus. Voilà, ça c'est mon rôle dans le film. La batterie, elle, va jouer sur des roulements, sur des trames, des textures. Pendant que la contrebasse, qui d'ailleurs fonctionne un petit peu avec la batterie à ce moment-là, elle joue des trames à l'archet, qui en même temps vont suivre un peu peut-être l'écartement des deux notes que je joue. Et finalement, tout ça crée une forme de magma jusqu'à un climax, et finalement, on se retrouve après sur une écriture très serrée. J'aime bien ce contraste. Thank you.
Battlefield Memories, le trio de Benjamin Mousset pour nous ici au studio 119 pour France Musique avec Arnaud Cuisinier à la contrebasse, Eric Echampard à la batterie. Merci beaucoup pour tous ces exemples, Benjamin, Eric et Arnaud. Alors Benjamin, on n'a pas fait le tour de la question, il faudrait citer les plus jeunes, je pense à Shai Maestro, lui il est né en 1987 comme Tigran Amassian, Robert Glasper qui a une certaine influence sur les jeunes générations.
Oui, oui, hein, tout à fait, tout à fait.
Et puis on aurait pu aller chercher aussi du côté de la musique latine et de ses croisements avec le jazz.
Sujet qu'on a très peu abordé.
Mais... On pense à Alain Jean-Marie ici, on pense à Bebo Valdés ailleurs. Voilà. Ils sont souvent très inventifs et pas seulement sur le plan rythmique. On s'est beaucoup concentré sur ceux qui ont inventé, ceux qui ont cherché. Parfois, ils ont trouvé quelque chose dans cette belle histoire du trio piano-basse-batterie depuis la fin des années 30, début des années 1940. Si on avait un nom à conserver, c'est quasiment impossible, évidemment, mais quel serait le plus moderne, Benjamin Mousset, à votre avis ?
Souvent, je me dis que, d'une certaine manière, le musicien le plus moderne restera composition, instrumentation et orchestration, tout confondu, je dirais Duke Ellington.
Ah oui, d'accord.
On a l'impression qu'on repart dans le passé, mais d'une certaine manière, Duke, il est toujours avant tout le monde, et même quand il est mort, eh ben, il est encore avant tout le monde. Non mais, du coup, peut-être qu'on pourrait clore toute cette espèce de triptyque d'émission, voilà, toute cette histoire, par un enregistrement que moi je trouve absolument formidable. Je le fais souvent entendre en blindfold test,
c'est-à-dire
à écoute à l'aveugle, soit à des élèves, soit à des copains musiciens, et en fait, très peu de gens le reconnaissent, parce que c'est tellement moderne et tellement inattendu de sa part. Il s'agit de Summertime, qui est un des standards les plus joués au monde.
Ça tombe bien, on est le 1er juillet, c'est l'été, Summertime.
Duke nous livre une version tout à fait surprenante, puisque Sam Woodyard à la batterie, en fait, on n'a pas l'impression qu'il joue de la batterie, mais qu'il répare la charpente
dans le studio d'à côté.
Dans le studio d'à côté, ou du chalet qu'il est en train de se construire au bord du lac. Aaron Bell, on ne sait pas trop ce qu'il fait avec sa contrebasse, mais il faisait une espèce de son grave très bizarre. Et Duke Ellington, il joue la mélodie à un doigt, en faisant des accords, des clusters.
Ça devient du Ellington, c'est plus du Gershwin.
Et en même temps, c'est intemporel. Ça rejoint un peu ce qu'on disait là en fin d'émission sur cette liberté, cette indépendance des trois voix dans l'orchestre, dans le trio.
Ça pourrait être ici en 2014, mais c'était en mars 1961 à Los Angeles. Mais comme vous le dites, Benjamin Mousset, c'est intemporel. Summertime par le trio de Duke Ellington, Aaron Bell, Sam Woodyard, contrebasse et batterie. Merci beaucoup Benjamin Mousset d'être venu pour ces trois émissions sur l'histoire du trio piano-basse-batterie. C'était tout à fait passionnant. Merci bien sûr à Arnaud Cuisinier et Eric Echampard qui sont venus aussi avec vous chaque semaine. Je vous souhaite un excellent été à l'écoute de France Musique. Et puis bien sûr, merci à Stéphane Desmonts et à Mathias Arignon pour la prise de son de cette émission. Léo Duroy a accordé le piano. Dorothée Gold nous a aidé à préparer cette émission que Christine Amado a réalisée comme chaque semaine. vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr, et vous pouvez bien sûr la podcaster.